Commentaire sur 1 Pierre, document d'étude numéro F060. Cette première épître de Pierre a été écrite pour les exilés israélites dans la dispersion concernant le salut des élus sous Jésus-Christ. Introduction. Le texte de Jacques a été écrit aux 12 tribus dans la dispersion. Le texte de cette première épître de Pierre, ou 1 Pierre, s'adresse également au même groupe de la dispersion, c'est-à-dire aux 12 tribus d'Israël. Pierre a été envoyé aux gentils, entre parenthèses Actes 15, verset 7, verset 14, parmi lesquels étaient dispersées les 12 tribus. Et il était basé à Antioche, où il y nomma 3 évêques pour son ministère. Ces juifs israélites ont été dispersés, comme nous le voyons dans Actes 2, verset 5 à 11. Ces régions de mission s'étendaient de l'Asie mineure à la Partie, et en Asie en général. Et ces secteurs de ministère sont consignés dans le texte l'établissement de l'Église sous les 70, numéro 122D. Note 1. Pierre a prêché l'Évangile dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Bithynie, en Italie et en Asie, et a ensuite été crucifié par Néron à Rome, la tête en bas, car il avait lui-même voulu souffrir de cette manière. Ces régions sont identifiables comme faisant partie de l'ancien empire parthe, de ce qui est aujourd'hui la Turquie et la Mésopotamie, entre parenthèses aujourd'hui l'Irak. Note 2. André prêcha aux Scythes et aux Thraces et a été crucifié, suspendu à un olivier, à Patrae, une ville d'Achaïe. Et là aussi, il a été enterré. Nous voyons ici qu'André, entre parenthèses frère de Pierre, prêchait aux Parthes et aux Scythes au nord et aux Thraces à l'ouest. Cela montre une division de la région travaillant en collaboration avec Pierre et les autres apôtres. Le système trinitaire déforme délibérément son ministère pour entretenir l'illusion que Pierre était évêque de Rome, ce qu'il n'était pas. Ce point de vue devait faire avancer le patrimoine de la fiction de Pierre basée sur l'utilisation abusive du texte de Matthieu 16, verset 18. On suppose seulement que Pierre a été tué à Rome, mais il est affirmé qu'il est allé en Italie vers la fin de son ministère, et on suppose qu'il l'a fait sous le règne de Néron. C'est Paul qui a été exécuté sous Néron, et aussi Linus, le premier évêque de Rome, nommé par Paul. Cette exécution a suivi l'empoisonnement de Claude et de Caradoc par la famille de Néron. Son ministère était auprès des exilés de la dispersion en Asie mineure, et plus loin en Asie. Ici, il se réfère de nouveau à la prédestination et à l'appel de Dieu le Père, comme indiqué dans Romains 8, versets 29 à 30, et répété ici et encore dans 2 Pierre et dans Jude. Entre parenthèses, comparé commentaire sur Jude, F065. Les Israélites ont été emmenés en captivité en l'an 722 avant notre ère, par les Assyriens, et se sont installés au nord des Araxes, parmi les Hittites ou Celtes du nord. Les Juifs, avec une partie de Benjamin, et Lévi ont été pris à partir de l'an 586 avant notre ère par les Babyloniens. Cependant, la mission de Pierre était auprès des Israélites de la dispersion dans la Partie et ses environs, et la mission de son frère André était en partie en Scythie et en Thrace, apparemment pour soutenir cette mission. Tous deux ont été tués sur des poteaux ou bois, entre parenthèses et aussi plus tard crucifiés. Pierre à l'envers et André symbolisé en sautoir sur un olivier, comme le montre son symbole parmi les Scythes qui se sont installés en Écosse. Entre parenthèses, comparez le document d'étude Les descendants d'Abraham, partie 6, Israël, numéro 212F. La majorité de ceux qui se disent juifs aujourd'hui sont un mélange de haplogroupe E3B cananéen et égyptien, haplogroupe E1A nord-africain, haplogroupe J édomite, et arabe, et R1A khazar avec quelques R1B hittites. Moins de 10% appartiennent aux tribus de Juda, Benjamin et Lévi. Entre parenthèses, comparez le document Les descendants d'Abraham, partie 5, Juda, numéro 212E. Pierre se décrit d'abord comme Petros, un apôtre de Jésus-Christ, plutôt que comme Céphas, comme il était appelé dans les écrits. Les deux termes font référence à un rocher, et l'araméen pour Céphas a le sens de tête dure, comme entêté, entre parenthèses comparé à Lamza. Les gens dans les tribus dans la dispersion étaient les étrangers et exilés auxquels ils se réfèrent comme des 12 tribus dans les nations qui se trouvaient au nord dispersées à travers la Partie et l'Asie. La Partie était l'empire au nord d'Israël et était contingu à Israël. C'était la même région qui était à l'origine composée de Hittites après la chute de Troie. Puis les restes ont cédé et sont devenus l'empire assyrien, puis des Babyloniens, mais la majorité était en fait des vestiges des origines des Celtes européens qui ont occupé toute la Grande-Bretagne et l'Europe et à travers les Khazars Askenage se sont rendus en Scythie. Entre parenthèses, comparez le document d'étude Les descendants d'Abraham, partie 6, Israël, numéro 212F. Les Gaulois sont revenus et ont occupé la Galatie, d'où le nom de ces derniers qui s'y sont réinstallés. On dit que Pierre a été nommé évêque de Rome par les Romains après qu'il ait ordonné l'extermination des Desposini, ou à ceux qui appartiennent au Seigneur, de la famille de Jésus-Christ. Les hommes de la famille de Jésus-Christ ont reçu l'ordre de Rome par Constantin de mener des discussions avec l'évêque Alexandre, qui a ordonné leur extermination en l'an 312 de notre ère. Ils ont alors entrepris d'exterminer la famille du Christ, et pour cette raison, ils ont dû dissimuler la mission de Pierre et l'existence de la famille de Christ et des églises d'Asie mineure. Comparez le document d'étude Les guerres unitariennes trinitaires, numéro 268, et la Vierge Marie et la famille de Jésus-Christ, numéro 232. Lorsque les grandes villes d'Asie mineure ont été converties et établies, il y avait des gens avec les 70, et aussi plus tard avec les descendants du Messie. Comparez le document d'étude numéro 122D, cité ci-dessus dans ce document. Cela ne convenait pas aux idolâtres des cultes de la déesse mère des adorateurs de Baal, dans l'Empire romain et ailleurs. Le culte du dieu Baal était divisé en un certain nombre de divinités différentes, ayant des aspects et des noms variés. Il s'agissait de Baal et Astoreth, Attis et Cybèle, Adonis, Mithra, et Osiris et Isis, Ishtar ou Ister, et Kato ou Derkato. Les jours de culte de ces groupes idolâtres étaient le dimanche, ainsi que Noël et Easter, la Pâque païenne. Comparez le document d'étude Les origines de Noël et d'Easter, la Pâque païenne, numéro 235. Ces idolâtres ont pénétré le christianisme et l'ont détruit. Ils se sont alors mis à tuer et à torturer les églises de Dieu qui insistaient pour maintenir la base du culte chrétien sous les lois de Dieu, voir le document L1, et sous le calendrier du temple ou de Dieu, voir le document numéro 156. Pierre a vu tout cela se produire, et Pierre a ensuite écrit ses deux épîtres. Entre parenthèses, comparez commentaire sur 1 Pierre, F060. La première épître visait à avertir de la persécution à venir, et la deuxième épître à mettre en garde contre l'antinomisme qui saboterait la foi et détruirait la foi de la majorité et les transformerait en la grande purge de la foi qu'ils deviendraient. Ceci est couvert dans le texte commentaire sur 2 Pierre, F061. N'oubliez pas que l'adversaire a toujours eu pour pratique de revendiquer ceux de la foi comme étant les siens, puis d'utiliser les pratiques qu'il a établies avec les païens, puis d'appliquer ces pratiques sous des noms soi-disant chrétiens. Par exemple, Noël a été établi et transféré à partir de la naissance du dieu Soleil et de sa présentation du fils nouveau-né de la caverne ou grotte au soir du 23 décembre en tant que le nouvel enfant Christ, comme Noël, et de la déesse Easter en tant qu'objet de culte lors de la fête de la Pâque. Ces deux pratiques sont totalement idolâtres et seront éradiquées avec ceux qui les maintiennent lors du retour du Messie. Noël n'est même pas entré dans le christianisme avant l'an 475 de notre ère, au début du Dark Age, entre parenthèses d'Antiquité tardive ou Âge sombre, qui a duré environ 450 ans. Comparez les documents d'études du réchauffement global, les cycles historiques numéro 218b. Voyons 1 Pierre 1, verset 1 et suivant. Il est important de passer en revue l'ouvrage de John Gill, intitulé « His Bible Expository », son exposition sur la Bible, sous la section « Sur les étrangers dispersés à travers le pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie ». Il les désigne comme des Juifs, mais ils étaient en fait des Israélites dans les systèmes de la Parthie et de la Scythie, et dans toute l'Arabie jusqu'en Asie. Il dit qu'on les appelle des étrangers, non pas dans un sens métaphorique, ni non plus parce qu'ils étaient comme les méchants pervertis dès le sein maternel, et étrangers à la vie de Dieu, comme le sont tous les hommes non convertis, et tels qu'ils étaient avant la conversion, car maintenant, ils n'étaient plus des étrangers dans ce sens, ou à cause de leur état instable et de leur condition dans cette vie, n'ayant pas de cité permanente, et en cherchant une à venir, un pays céleste, et vivant comme des pèlerins et des étrangers, dans quel respect ils sont en effet ainsi dénommés. 1 Pierre 2, verset 11, mais dans un sens civil, et non pas comme les païens, étrangers du Commonwealth d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse, car ils étaient juifs, mais du fait qu'ils n'étaient pas dans leur propre pays, et dans un pays étranger, et donc dit dispersés, ou les étrangers de la dispersion. Soit à cause de la persécution à la mort d'Étienne, lorsque des multitudes de juifs convertis furent dispersés à l'étranger, non seulement dans les régions de Judée et de Samarie, mais jusqu'à la Phénicie, et Chypre, et Antioche. Voir Acte 8, verset 1. Et il se peut qu'il en soit de même par la suite dans les lieux mentionnés ici, ou bien il s'agit là de quelques restes des 10 tribus emmenées en captivité par Salmanazar et des 2 tribus par Nebuchadnezzar, ou encore la dispersion des Grecs mentionnée dans Jean 7, verset 35, sous les Macédoniens par Ptolémée et Lagus. Cependant, il y avait des Juifs du pont qui habitaient ce lieu. Et de cela, nous lisons dans Actes 2, verset 9, qu'ils sont venus adorer à la fête de la Pentecôte, dont certains se sont convertis à la foi chrétienne, étant mentionnés en premier, et cela a amené cette épître à être appelée à la fois par Tertullien A et Cyprien B, l'épître aux Pontiens. Peut-être que ces Juifs, convertis le jour de la Pentecôte, à leur retour ici, ont-ils jeté les premières bases d'un état ecclésiastique évangélique dans ce pays. C'est une tradition des anciens, mentionné par Eusebius, section C, que Pierre lui-même a prêché ici et donc très probablement a formé les chrétiens qu'il a trouvés et ceux qui ont été convertis par lui en église évangélique, et il apparaît par une lettre de Dionysios, évêque de Corinthe, qu'il y avait des églises à Poutius au IIe siècle, en particulier à Maastricht, dont l'évêque était un certain Palma, qu'il le félicite. Et Phocas serait évêque de Syncope au même âge, et au IIIe siècle, Grégoire et Athénodore, disciples d'Origène, étaient évêques dans ce pays. Le premier était un homme très célèbre, appelé Grégoire Thaumaturgus, le Thaumaturge, l'ouvrier des merveilles, et était évêque de Néo-Césaréa au IVe siècle, et il y avait une église au même endroit, dont Longinus était l'évêque, comme il ressort du concile de Nicée, auquel il assistait avec d'autres évêques du pont. Et à cette époque, au temps de Dioclétien, beaucoup de personnes de ce pays ont enduré des souffrances très choquantes relatées par Eusèbe. Et au même siècle, Eladius est censé gouverner l'église du pont. Et au Ve siècle, on parle d'église du pont réformée par Chrysostome. À cette époque, Théodore était évêque d'Héraclée et Thémistius d'Amastrie, tous deux dans cette province. Et ces deux évêques ont participé au concile de Chalcédoine, et au VIe siècle, il y avait des églises du pont, dont les évêques participaient au Ve synode tenu à Rome et à Constantinople, et il y en avait eu de même au VIIe et VIIIe siècle. La Galatie, mentionnée ensuite, est cette partie de la petite Asie, appelée Gallo-Graecia, dans laquelle se trouvaient plusieurs églises, auxquelles l'apôtre Paul a écrit son épître, appelée l'épître aux Galates, voire l'ouvrage de Gilles, sur Actes 16, verset 6 et Galates 1, verset 2. La Cappadoce, d'après Ptolémée, était délimitée à l'ouest par la Galatie, au sud par la Cilicie, à l'est par l'Arménie la Grande, au nord par une partie de l'Euxine Pontus. Elle comptait de nombreuses villes célèbres, comme le dit Solinus, comme les Arcadiaïdes, la Néo-Césarée, Mélita et Mazaka. Les Juifs parlent souvent d'aller de la Cappadoce à Lude, ou Lida, de sorte que selon eux, cela semble être proche de cet endroit, ou du moins qu'il avait un endroit près de Lida, ainsi appelé. À ce sujet, voir le commentaire de Gilles sur Acte 2, verset 9. De ce pays également, il y avait des Juifs à Jérusalem le jour de la Pentecôte, dont certains se sont convertis, et ici aussi l'apôtre Pierre aurait prêché, comme on l'a déjà observé au pont. Et il a probablement fondé une ou plusieurs églises ici au 1er siècle et au 2e siècle, selon Tertullien. Il y avait les croyants en Christ qui habitaient ce pays, et au 3e siècle, Eusèbe mentionne Néon, évêque de Larandis, et Celsus, évêque d'Iconium, tous deux en Cappadoce. Il y avait aussi Fédimus d'Amasée, dans le même pays, à cette époque. Et à Césarée, en Cappadoce, plusieurs martyrs ont souffert sous Décius. Et au cours de ce siècle, Étienne, évêque de Rome, a menacé d'excommunier certains évêques de Cappadoce, parce qu'ils avaient rebaptisé certains hérétiques. Au IVe siècle, il y avait des églises en Cappadoce, dont l'une, à savoir à Sazimi, le célèbre Grégoire Nanzianzen, fut le premier évêque. et ensuite à Nanzianzum, ainsi que le célèbre Basile de Césarée, dans le même pays. C'est là que la persécution sous Dioclétien atteignit son paroxysme, et que beaucoup eurent les cuisses cassées, comme le raconte Eusèbe. D'où l'envoi de plusieurs évêques qui assistèrent au concile de Nicée, sous Constantin, et un autre tenu à Jérusalem. Au Ve siècle, il y avait des églises en Cappadoce, en plusieurs endroits, dont les noms des évêques sont consignés comme Firmus, Thalassius, Théodosine, Daniel, Aristomachus, Patriarchius et d'autres. Au VIe siècle, il y avait de nombreuses églises célèbres dans ce pays, dont les évêques participaient au Ve synode, tenu à Rome et à Constantinople. Et au VIIe siècle, il y en avait plusieurs au VIe synode de Constantinople. Et au VIIIe siècle, il est fait mention des évêques de plusieurs églises de Cappadoce, dans le deuxième synode de Nicée, et même au IXe siècle, il y avait des chrétiens dans ces régions. L'Asie. L'Asie n'entend ici ni la petite ni la grande Asie, mais l'Asie proprement dite, et qui, selon Solinus, la Lycie et la Phrygie se limitaient à l'est, les côtes de la mer Égée à l'ouest, et la mer d'Égypte au sud, et la Paphlagonie au nord. La ville principale était Éphèse, et c'est pourquoi elle se distingue de la Phrygie, de la Galatie, de la Mysie et de la Bithynie, dans Acte 16, verset 6, comme ici de Pontus, de la Galatie, et de la Cappadoce, et de la Bithynie, et de Pontus, et de la Cappadoce, en Acte 2, verset 9, bien qu'ils se trouvent tous en Asie mineure. D'ici aussi étaient des Juifs qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, et ici aussi il est dit que Pierre a prêché, et par lui et par l'apôtre Jean, qui a également vécu et est mort dans ce pays, des églises ont été implantées. Et il y avait ici des églises, même au VIIe siècle, distinctes de l'autre Asie, plus ou moins. Car de son sein, des évêques ont été envoyés et ont assisté au VIe concile de Constantinople, dont les noms sont consignés. Au VIIIe siècle, il y avait des églises et des évêques, dont l'un a persuadé Léo de retirer les images des lieux de culte, et un autre a participé au synode de Nicée. Le dernier lieu mentionné est Bithynie, dont voir Gilles à propos d'Acte 16, verset 7. Et bien que l'apôtre Paul et ses compassions n'aient pas souffert à un certain moment pour aller en Bithynie et y prêcher l'évangile, il est certain qu'il y a été transporté par la suite. Et comme on dit que Pierre prêchait dans le pont, en Asie et en Cappadoce, il en est de même en Bithynie. Ici, selon la martyrologie romaine, Luc l'évangéliste est mort. Et selon la tradition, Procurus, l'un des sept diacres d'Acte 6, verset 5, était évêque de Nicomédie dans ce pays. Et Tychique, dont l'apôtre Paul fait fréquemment mention, était évêque de Chalcédoine, une autre ville de ce pays, et qui sont tous deux dits être des 70 disciples, voire Gilles sur Luc 10, verset 1. Et il est certain, d'après le témoignage de Pline, un écrivain païen, dans une de ses lettres à l'empereur Trajan, écrite vers l'an 104, qu'il y avait alors un grand nombre de chrétiens en Bithynie. Non seulement les villes, mais les villages en étaient remplis. Et au IIIe siècle, la persécution sous Dioclétien faisait rage, en particulier à Nicomédie, où Antime, le pasteur de l'église de cet endroit, a eu la tête coupée, comme le raconte Eusèbe. Au début du IVe siècle, Nicée en Bithynie est devenue célèbre par le concile qui s'y est tenu, sous Constantin, contre Arius. Et au cours de ce siècle, des évêques de Bithynie ont assisté à un synode tenu à Tyr, en Phénicie. Et au Ve siècle, s'est tenu un synode à Chalcédoine, une ville de ce pays, contre l'hérésie nestorienne. Et les noms de plusieurs évêques de Chalcédoine, Nicomédie et Nicée, qui ont vécu à cette époque, sont consignés. Et au VIe siècle, des évêques de ces différents lieux et d'autres étaient présents au Ve synode à Constantinople. De même qu'au VIIe siècle, au VIe synode tenu au même endroit, dont les noms sont particulièrement mentionnés, et au VIIIe siècle, des évêques d'ici étaient présents au synode de Nicée, et même au IXe siècle, il y en avait qui portaient le nom chrétien en Bithynie. Il semble toutefois que de nombreux juifs convertis au Christ aient vécu dans ces lieux, auquel l'apôtre a consacré cette épître, et qu'il décrit plus en détail dans le verset suivant. Nous voyons ici que Pierre traite des doctrines de l'appel et de la prédestination, voir le document numéro 296 de Dieu, énoncé par Paul dans Romains 8, versets 29 à 30. Pierre lie la foi à l'espérance dans laquelle nous sommes sanctifiés par l'Esprit Saint, et à la sanctification par l'aspersion de son sang et la résurrection. Le sang est le sang de l'expiation pour la sanctification du sacerdoce de Melchisédek, comme cela est détaillé dans Hébreux. Comparez le document d'étude commentaire sur Hébreux, F058. C'est l'héritage qui nous est promis en tant que cohéritier avec Christ. Notez qu'il se réfère ici au dernier jour. Ce texte est donc une prophétie à long terme pour les églises de Dieu. C'est une exhortation à la foi en la première résurrection et à la récompense qui nous attend. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, entre parenthèses qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit Saint envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Nous voyons ici que notre prédestination est comme celle de Christ déterminée dès la fondation du monde, mais conservée pour nous, afin que nous naissions de nouveau par la parole de Dieu dans l'Esprit Saint. C'est par Christ et la foi que nous avons foi au salut de Dieu, et par la purification de notre souffle, en grec « psyché », voir le dictionnaire grec de Strong numéro 5590. Le souffle étant le principe animal sensible seulement en tant que l'esprit, lequel retourne à Dieu à la mort. Ici, ce souffle est purifié pour obéir à la vérité, c'est-à-dire à l'amour sincère des frères qui vient du cœur. C'est en cela que réside la clé et la marque de la foi. Au chapitre 2, Pierre poursuit en identifiant les caractéristiques des frères qui vont à l'encontre ou qui sabotent cet amour. Ces aspects qui prévalent aujourd'hui sont la malice, toute ruse. L'insincérité et la calomnie sont les marques des églises mortes et tièdes des derniers jours sous Sardes et Laodicée. Voir Apocalypse chapitre 3. Ici, nous sommes appelés comme des pierres vivantes, comme Christ, pour être utilisés dans le temple spirituel dans Sion, en tant que des saints prêtres offrant des sacrifices spirituels. Nous lisons 1 Pierre, le chapitre 2. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Notez que nous sommes un peuple élu et un sacerdoce royal. Nous devons obéir aux lois de Dieu afin d'être des exemples pour les gentils parmi lesquels nous vivons. Nous sommes des exemples comme Christ. Étant insulté, il n'a pas insulté en retour. Il n'a commis aucun péché et aucune ruse n'a été trouvée sur ses lèvres. Il n'a commis aucune calomnie et aucune malice n'a été trouvée en lui et aucune ne doit être trouvée en nous. Pierre se tourne alors vers les femmes et les exhorte également à la foi. Les mêmes péchés de malice, de ruse et de calomnie les occupent également et font tomber les églises de Dieu à la face de tous les hommes. Il n'y a aucune distinction dans la foi quant à l'appel des frères, hommes ou femmes, car à la première résurrection, nous serons comme les anges. Entre parenthèses, Luc 20, verset 36. nous ne nous marierons pas et ne donnerons pas en mariage. » Nous poursuivons 1 Pierre, le chapitre 3. « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Nous devons donc souffrir sous la persécution des nations, même si nous faisons le bien et obéissons au commandement de Dieu, sans péché, car le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, verset 4. Ici, Pierre lit le baptême au salut, et ce n'est pas l'aspersion des nourrissons, mais le baptême d'eau d'un adulte repentant nécessaire pour entrer dans la première résurrection. Alors Pierre poursuit le concept de souffrance dans la chair en montrant que nous sommes libres et que nous avons cessé de pécher et que nous vivons par la volonté de Dieu selon ses commandements. Il est évident ici qu'il fait référence au péché des païens contraires aux lois de Dieu. Voir le verset 3. La fin est proche et ainsi l'Église devra affronter ses problèmes jusqu'au bout. Et ce faisant, ils doivent pratiquer l'hospitalité et être généreux les uns envers les autres, car chacun souffrira dans l'ardente épreuve qui attend les élus au cours de leur appel. Certains seront martyrisés, d'autres simplement persécutés, mais pas davantage pour qu'ils puissent tenir bon. Mais beaucoup, dans les derniers jours, ne pourront pas tenir bon et retourneront comme des chiens dans leur propre vomi, comme le dit Pierre dans 2 Pierre. Nous lisons dans 1 Pierre le chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas, avec eux, dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous serons tous testés, mis à l'épreuve en tant que chrétiens et au nom de Christ, et cela se fait sentir davantage depuis un certain temps. Si ce jugement commence par nous, où se tiendront les faibles, les paresseux et les pharisaïques aux yeux de Dieu dans tout cela? Sans parler de ceux qui pêchent sans se soucier de rien. Comme nous sommes éprouvés comme Christ a été éprouvé, souffrons selon la volonté de Dieu et confions nos âmes à un Créateur fidèle. Soyez prêts à soutenir les dirigeants parmi nous et à prendre soin de tout le troupeau de notre peuple. Faites-le volontiers et non pour le gain, mais pour nous aider tous à survivre et à gagner la gloire de Dieu dans la résurrection. Nous lisons dans 1 Pierre le chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échu en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'élu, qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous, qui êtes en Jésus-Christ. Pierre envoie ses salutations, celles de sa femme et de son fils Marc. C'est la véritable grâce de Dieu, et cela n'atténue pas la loi de Dieu d'un seul point ou d'un seul trait de l'être. Après que nous aurons souffert un peu, Dieu nous restaurera et nous fortifiera. La fin est sur le point d'éclater. Soyez fermes, tenez bon. Les notes de Billinger sur 1 Pierre, entre parenthèses pour la Bible version King James, sont disponibles en anglais uniquement, ci après dans ce document d'étude. Fin de la lecture du commentaire sur 1 Pierre, F060.